Merci d'écouter RFI. Il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
L'heure de retrouver, comme tous les soirs, votre journal en français facile, avec à la une le retour en classe des écoliers qui se poursuit en France. Ce matin, c'était au tour des plus jeunes en Île-de-France, dans une zone où le virus circule encore beaucoup. Les précautions sont nombreuses pour éviter une deuxième vague de l'épidémie. Je crains que l'épidémie s'aggrave et se prolonge. C'est justement ce qu'a dit aujourd'hui Rick Bright. Cette fois, c'était aux États-Unis. Celui qui jusqu'en avril était chargé par le gouvernement de chercher un remède, demande une stratégie nationale contre le virus. Et puis, peut-on transmettre le coronavirus simplement en parlant? C'est ce que semble indiquer une étude américaine publiée hier. On en parle à la fin de ce journal.
Le journal.
En français facile.
Jeudi 14 mai 2020, jour 3 du déconfinement en France. C'était aujourd'hui le premier jour d'école pour une deuxième vague d'élèves. Après la réouverture de certaines classes, mardi ce matin, les élèves d'Île-de-France, Paris et sa banlieue ont repris pour certains le chemin de l'école. Un retour prudent seulement en maternelle et en primaire, avec des précautions très strictes pour éviter la contamination et surtout en petits groupes. Les enfants des personnels soignants, ceux qui sont en situation de handicap ou en difficulté sociale ou scolaire était prioritaire. Dans l'école élémentaire Armand Carrel, c'est ainsi 32 écoliers seulement sur les 270 habituels qui sont arrivés ce matin. Laurence Théo est allée tendre son micro aux enfants et à leurs parents.
Bonjour, ici, viens ici, tu vas bien.
Sur le trottoir, la directrice a fait peindre en bleu des marques de pas d'enfants. Espacées d'environ un mètre, elle donne un premier aperçu des règles de distanciation physique qu'il faudra respecter à l'intérieur de l'école. Les épaules alourdies par un gros cartable, Joseph et Sacha ont retenu la leçon.
Les gestes barrières, c'est on met la main devant en fait pour voir si on se touche. Si on se touche, c'est que c'est pas un mètre. On doit éternuer dans le coude.
Se laver les mains presque tout le temps.
Perles jaunes et rouges dans les cheveux, Nadala croit savoir pourquoi elle porte un masque.
Parce que c'est très obligatoire.
La petite élève se réjouit de retourner en classe. Car sans ordinateur, l'école à la maison, c'était un peu compliqué.
La maîtresse, elle me donnait du travail. Il y a d'autres parents, eux, ils avaient des imprimantes et nous, on n'en avait pas.
Tu as eu des difficultés pour les devoirs ?
Quelques-uns.
Le sourire laisse entrevoir des dents qui poussent. Adeline est en CP.
Ça m'a beaucoup manqué de ne pas retourner à l'école.
Vous accompagnez votre petite sœur à l'école. Est-ce que vous êtes confiante ?
Un petit peu, mais pas trop.
Et pour cette jeune femme qui tient son fils par la main, la reprise est salutaire.
Je retourne travailler. Il n'y a pas le choix. De toute manière, je suis une famille monoparentale.
Pour les petits Parisiens, comme pour les autres, c'est donc une rentrée progressive et prudente. Une rentrée à petits pas.
Laurence Théo, et pendant que des enfants retournent à l'école, on se pose aussi la question des vacances. Les Français pourront-ils partir cet été? Oui, a dit aujourd'hui le Premier ministre Édouard Philippe. Ils peuvent réserver leurs vacances en France pour juillet et août, sous réserve de possibles restrictions très localisées en fonction de l'évolution de l'épidémie. L'idée, c'est bien sûr de relancer le tourisme qui représente 7% du PIB français et 2 millions d'emplois. Pour sauver le secteur, Édouard Philippe a par ailleurs dévoilé un plan de relance de 18 milliards d'euros. L'économie française dans son ensemble redémarre doucement, dit ce soir le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Aux États-Unis, Donald Trump a une nouvelle fois accusé la Chine ce soir de n'avoir pas assez lutté contre l'épidémie quand elle est apparue sur son sol. Ils auraient pu l'arrêter, dit le président américain, qui menace même de rompre les relations entre son pays et la Chine et refuse de parler au président chinois. Donald Trump accuse la Chine, mais d'autres l'accusent, lui et ceux dans son propre pays, comme aujourd'hui Rick Bright devant la Chambre des représentants à Washington, l'ancien directeur de l'agence américaine chargée du développement de traitement contre le coronavirus, accuse l'administration Trump d'avoir ignoré ses avertissements. Il a formellement déposé plainte mardi auprès de son autorité de tutelle après avoir été renvoyé le 20 avril. Eric Bright prévient, sans stratégie nationale aux États-Unis, le virus sera bientôt hors de contrôle. Écoutez.
Notre fenêtre d'action se referme. Si nous ne parvenons pas à améliorer notre réponse immédiatement, sur la base de la science, je crains que l'épidémie s'aggrave et se prolonge. Il y aura probablement une recrudescence des cas de COVID-19 cet automne, qui s'ajoutera aux défis posés par l'épidémie saisonnière de grippe. Sans une meilleure préparation, 2020 pourrait être l'hiver le plus sombre de l'histoire moderne américaine. Initialement, notre nation n'était pas aussi bien préparée qu'elle aurait pu l'être. Certains scientifiques ont lancé des signaux d'alerte assez tôt, mais ils ont été négligés, et nos directives sur les pandémies ont été ignorées par certains de nos dirigeants. Il y aura largement le temps pour établir ce qui s'est passé pour améliorer les choses. Mais il faut maintenant nous concentrer sur ce qui peut être fait pour avancer. Nous avons besoin d'un plan global que tout le monde connaît et auquel tout le monde participe. On se souviendra de ce qui a été réalisé et de ce qui a été négligé pour faire face à cette crise. Je nous appelle tous à agir pour nous assurer que la santé, la sécurité et la prospérité des Américains soient assurées. Je suis prêt à faire ma part.
Voilà, vous l'entendiez, il faut un plan global d'Eric Bright, mais dans les faits, les États-Unis en sont loin depuis que Donald Trump a laissé aux États le soin de se déconfiner, mais surtout depuis qu'il appelle à le faire rapidement pour relancer l'économie. Les opposants au confinement ont d'ailleurs quelque chose à fêter ce soir, puisque dans le Wisconsin, la Cour suprême a décidé d'annuler la prolongation du confinement décidé par le gouverneur. Pendant ce temps, l'épidémie continue de faire des ravages sur le marché de l'emploi. En une semaine, 3 millions supplémentaires d'Américains se sont inscrits au chômage. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est aussi pour soutenir son économie que l'Italie a décidé de régulariser plusieurs centaines de milliers de travailleurs étrangers clandestins. Une mesure importante pour l'économie, mais aussi pour l'accès aux soins en pleine épidémie. D'autres pays ont d'ailleurs pris des mesures pour les personnes sans papier pendant le confinement, comme nous le rappelle Jean-Christophe Dumont, il est le chef de la division des migrations internationales à l'OCDE.
La plupart des pays ont pris des mesures pour un certain nombre d'entre eux automatiques. C'est le cas de la France, hein, où tous les titres sont prolongés pour automatiquement pour 90 jours. D'autres pays ont des règles de tolérance, c'est-à-dire ils acceptent que les gens se retrouvent en situation irrégulière pendant la période de crise sanitaire. Et par exemple, un certain nombre de pays d'Europe de l'Est même permettent cette situation au-delà de la période d'urgence sanitaire, en prolongeant l'autorisation de rester sur le territoire jusqu'à 30 ou 60 jours. Et donc, certains pays exigent à l'inverse que les personnes déposent une demande de façon à être, entre guillemets, régularisées. Et donc, c'est aussi dans cette perspective que s'inscrit la régularisation italienne qui n'est pas, de ce point de vue-là, disons plus généreuse que ce que peuvent faire d'autres pays.
Propos recueillis par Juliette Gerbrandt. Et pour sortir de la crise, il faudra un vaccin, mais pour cela, il faudra attendre. Selon l'Agence européenne du médicament, l'EMA, un vaccin pourrait être disponible dans un an, mais attention, c'est une perspective optimiste, disent les experts. D'ailleurs, même un vaccin ne ferait pas forcément disparaître le virus, avertit aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé. Il pourrait rester dans nos communautés un peu comme la grippe et ne jamais disparaître, dit l'OMS. Et pendant que certains cherchent des remèdes, d'autres continuent de se demander comment se transmet le virus. On sait déjà que la toux et les éternuements le transportent, mais l'Académie américaine de médecine publie aujourd'hui une étude qui montre que le simple fait de parler suffit à le diffuser, Pierre-Olivier.
Pour cette expérience, les chercheurs ont fait parler une personne dans une boîte hermétique pendant 25 secondes. Grâce à un rayon laser, ils ont ensuite pu déterminer la quantité de gouttelettes de salive émises et surtout le temps pendant lequel elles sont restées en suspension. Résultat, dans une pièce fermée, une parole forte peut générer jusqu'à 1000 gouttelettes par minute qui restent ensuite dans l'air au moins pendant 8 minutes. Or, le virus du Covid-19 est capable de se loger dans ces minuscules postillons. Si l'on savait déjà que la salive est un vecteur du virus, cette visualisation permet de se rendre compte de la durée pendant laquelle les microparticules peuvent rester en suspension. Plus ces gouttelettes sont petites et plus elles flottent longtemps dans l'air, ce qui, selon les scientifiques, pourrait expliquer en partie la forte contagiosité du Covid-19. Une expérience qui justifie également un peu plus le port du masque, désormais recommandé dans de nombreux pays.
Pierre-Olivier, on termine avec lui ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter et le lire sur le site d'RFI Savoir. On s'y retrouve quand vous voulez.
que tu lis.